Bonsoir à toutes et à tous pour ce débat de la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou autour des prix littéraires, littérature, la saison des prix. Nous y sommes puisque c'est l'automne et que, immanquablement, comme chaque année, beaucoup de livres ont été édités à cette rentrée de septembre et concours et certains concours pour des prix qui vont être attribués dans ces prochaines semaines. Alors, bien évidemment, c'est une belle saison que la saison de la lecture, mais les bibliothécaires, comme les lecteurs, sont un petit peu étourdis devant ce foisonnement littéraire, à la fois réjouis, bien évidemment, et aussi étourdis devant la multitude et la richesse de ces œuvres. Et donc, en tant que bibliothécaire, en tant que bibliothèque publique d'information, nous avons décidé d'organiser, en collaboration avec Alain Nicolas, cette soirée pour parler à la fois de ce phénomène éditorial, mais parler également des œuvres, de certaines de ces œuvres, puisque nous avons le plaisir d'accueillir à la fin de cette soirée trois auteurs qui vont venir nous parler de leur travail, et c'est là l'essentiel, Olivia Rosenthal, Claro et Maïlys de Kerangal. Mais auparavant, il y aura une table ronde avec Marie-Rose Garnieri, qui est fondatrice du Privé Plaire et libraire, avec aussi Marie-Catherine Vacher, pardon, qui a eu la gentillesse de remplacer au pied levé Bertrand Pi. Elle est éditrice aux éditions Actes Sud, et Bertrand Pi ne pouvant être parmi nous, elle a très gentiment accepté de venir parler de son travail à la maison d'édition Actes Sud et de son travail avec les auteurs. Et puis il y aura également Eva Bétan qui nous rejoindra, elle est journaliste, critique et responsable du prix du Livre Inter. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à Alain Nicolas, en le remerciant encore de sa collaboration pour concevoir avec moi cette soirée. Alain Nicolas est critique et responsable des pages littéraires de l'Humanité, et également à Sylvie Ducas, qui est maître de conférences en littérature française, responsable du master métier du livre à l'université de Paris-Ouest Nanterre. À tous, merci.
Voilà, merci. Alors, bon, nous avons conçu cette soirée comme le lieu de possible convergence de plusieurs regards sur la rentrée littéraire. Bon, en préparant la présentation de ces moments, je m'étais pris d'une espèce d'ambition extrêmement solennelle et d'essayer de réfléchir sur ce qu'on peut considérer comme un fait social global, comme disait un grand sociologue. Alors, c'est peut-être vrai, on n'est pas encore forcément bien armé pour pouvoir le faire au niveau qui serait nécessaire, mais nous avons voulu donc avoir un regard scientifique, qui va être porté par Sylvie Ducas qui va assumer vaillamment cette ambition, et puis un témoignage des acteurs de la rentrée littéraire et en particulier des prix, et aussi comme cela a été dit en fin de soirée, c'est pas du tout prise de position sur la hiérarchie de nos intérêts, mais nous parlerons avec des auteurs, d'une part donc de la façon dont ils vivent ces moments qui peuvent être exaltants et pénibles, et surtout de ce qui, en fin de compte, est la matière première de tout ça, leur travail, leur écriture et les livres qu'ils nous donnent à lire. Alors, la rentrée littéraire, quand on cherche à avoir un travail de journaliste sur la rentrée littéraire, on se sent tout de suite confronté à des prises de position, à des besoins de comparaison. On explique que la rentrée littéraire, c'est un phénomène très français. Oui et non, mais enfin, en tout cas, c'est vrai que quand on regarde aussi l'incidence de ce phénomène, on s'aperçoit d'abord qu'il n'y a pas une rentrée littéraire, mais plusieurs, qu'en fin de compte, presque l'année presque entière pourrait se passer entre la rentrée littéraire d'automne, en fait, qui commence maintenant à mi-août, et la rentrée littéraire de janvier, qui va jusqu'au mois de mai, à peu près. Et voilà. Et, mais, en fait, la rentrée littéraire d'automne a quand même cette spécificité, c'est que s'y concentre une énorme partie de la production romanesque française, et surtout que on s'y concentre aussi la plupart des instances de consécration et de découverte qui sont représentées par les prix. On voit à quel point le phénomène est auto-entretenu, puisque tous les nouveaux prix qui se créent ont pour objectif de se mettre en position par rapport aux prix dominants, aux prix alternatifs, de proposer des modes de fonctionnement différents, de se donner des cahiers des charges originaux. Et bon, ce phénomène, en gros, existe depuis le début du siècle, du dernier siècle, du siècle passé, du 20e, et évidemment il s'est accéléré. Et donc l'existence même aussi de nombreux prix est un puissant facteur de mise sur le marché de livres. Donc on a un système qui a eu tendance à s'emballer, et c'est un peu ce phénomène qui sera le point de départ de l'approche de Sylvie Ducat. Donc elle va nous en parler pendant une demi-heure, et puis nous allons pouvoir, donc le mode d'emploi que je vous propose, c'est que vous allez pouvoir réagir, poser des questions, je ne m'en priverai pas pour mon compte, et puis nous enchaînerons donc sur la suite, donc la rencontre avec les deux représentantes des prix du Livre Inter et du prix Vepler, et la Marie-Catherine Vacher, qui est éditrice à Actes Sud, et puis les auteurs, comme on l'a dit. Donc Sylvie Ducat, c'est à vous.
Merci Alain. Alors, quand Emmanuel Payen m'a demandé un titre à ma communication d'aujourd'hui, immédiatement je me suis dit, tiens, faut-il brûler les prix littéraires ? Alors pourquoi j'ai pris ce titre ? Parce que c'est sans doute un des titres que j'ai vu le plus souvent pendant mes années de recherche dans les marronniers de textes reprochant mille méfaits aux prix littéraires comme il se devait. Et puis l'image d'autodafé du titre, donc de mon intervention, me semble bien résumer justement un ensemble de griefs que je vais rappeler, qui sont courants et dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je vous parlerai tout à fait d'autre chose. Donc, alors, premier grief, les prix littéraires, c'est un oxygène artificiel pour une édition française aliénée à la surproduction, à la best-sellerisation et à la financiarisation de l'édition. C'est un grief légitime, hein. Je pourrais montrer que tous les griefs que je vais évoquer sont justes, mais je proposerai un autre angle ensuite. L'autre grief, c'est la collusion, évidemment, des jurés et des éditeurs, hein, et le prix comme affaire d'éditeur plutôt que bataille littéraire. L'autre reproche habituel, c'est l'arbitraire des choix, bien sûr, et la surmédiatisation donc de quelques auteurs au détriment des autres. L'autre point qui revient souvent comme reproche, c'est le simulacre de consécration littéraire de l'écrivain à l'heure de notre société du spectacle et les dérives d'un mécénat littéraire devenu une machine à rétrécir les écrivains. Alors je pourrais effectivement, mais j'ai pas tellement le temps là, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si ça intéresse certains d'entre vous. J'ai étudié dans ma thèse les grandes crises de la consécration littéraire. C'est vrai que les prix, c'est un système qui marche sur une logique de scandale et de polémique, qui a été voulu dès le départ, hein. Il s'agissait de faire de la littérature un événement. Donc le scandale et la polémique, c'est une excellente manière de le faire. Mais c'est vrai que ce qu'on remarque dans les grandes crises de la consécration littéraire que j'ai pu étudier, c'est-à-dire pour voir comment le système se grippait au fil du siècle, c'est qu'elles ont tout à faire avec le grand écrivain, ou du moins avec un imaginaire du grand écrivain auquel on a longtemps été attaché. Alors quelques exemples très rapides. Première grande crise que j'avais repérée, c'est la crise, c'est Proust, en 1919, objet d'une très violente polémique, alors qu'il sert aujourd'hui aujourd'hui de faire valoir, je dirais, l'Académie Goncourt dans le palmarès. À l'époque, violente polémique, on reproche à Proust d'être ce vieux rentier fortuné qui n'a pas fait la guerre, qui est resté à l'ombre de ses jeunes filles en fleurs, alors qu'il y a un jeune combattant, écrivain, qui s'appelle Roland d'Orgelès à l'époque, et qui vient d'écrire Les Croix de Bois, lui, à l'ombre des soldats en sang. Je reprends des formules de la presse de l'époque. En plus, après, c'est Céline, évidemment, plus connue, 1932, première grande crise où on s'aperçoit que des intérêts extralittéraires jouent dans les prix et font que, même si unanimement Céline avait été reconnue comme, le voyage en tout cas avait été reconnu comme le chef-d'œuvre de l'année 32, il va se voir souffler le prix par, il n'aura que le Renaudot, prix de consolation. Et puis, dernière crise, elle est vraiment symptomatique, c'est Julien Gracq, en 1951. Rivage des Sirtes, donc il reçoit le Goncourt, Gracq refuse le prix et on lui attribue malgré lui. Et là, c'est le signe pour moi d'une économie du livre qui n'a plus besoin de l'écrivain consacré. C'est-à-dire qu'il consacre, mais l'écrivain est un faire-valoir. Et alors c'est sur ça que du coup, j'ai voulu prendre un axe un peu inhabituel et paradoxal. C'est celui de se dire, et si les prix finalement, moi qui ai étudié leur création et leur histoire, donc naissance dans le tout début du XXe siècle, et si les prix littéraires étaient une machine en fait à défendre l'écrivain, à défendre l'homme de lettres contre l'industrie des lettres qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore celle qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est déjà en place. Donc combattre l'industrie des lettres à coups de laurier. Et puis, est-ce que ces prix, on ne pourrait pas les voir comme des dispositifs visant à éviter que la valeur littéraire ne soit désignée que par les éditeurs, que donc par la loi du marché? C'est-à-dire que la valeur ne soit désignée que par le marché. Voilà. Alors, c'est ça un peu ça, mon axe directeur. Et du coup, j'ai envie de rappeler quand même un certain nombre de points qui corroborent cette hypothèse. Tout d'abord, les prix se sont tous créés. Bon, je ne veux pas faire des historiques de tous les prix, mais tout prix littéraire s'inscrit dans une lutte, dans un combat pour donner la définition légitime de ce qu'est l'écrivain et de ce qu'est la valeur littéraire. Et tout le siècle, la création des prix les uns contre les autres illustre cette idée. Premier exemple, donc à l'aube du XXe siècle, le prix Goncourt est le premier à se constituer, je le rappelle, en réaction au monopole exclusif de l'Académie française. C'est elle qui désigne la légitimité littéraire. Or, on est légitime quand on est poète ou quand on est auteur dramatique. On ne l'est certainement pas quand on est romancier. Donc le romancier se voit fermer la porte de la consécration. Pourquoi ? Parce que le roman, genre considéré comme populaire, venant de la presse, genre mineur, alors que le roman, ça va être précisément la forme que va prendre l'avant-garde littéraire en ce début de XXe siècle. Donc Edmond Goncourt, alors je le rappelle, incarnation du crépuscule de l'homme de lettres version XIXe siècle. Il écrit son testament sous l'égide de Saint-Simon, l'ombre, le spectre de Saint-Simon. C'est quelqu'un qui va vouer toute sa vie et sa fortune, quand même c'est pas rien, il a une considérable fortune amassée avec son frère, à la littérature. Et lui s'assure qu'en créant son académie et son prix, il n'imaginait certainement pas qu'il allait créer quelque chose qui allait devenir le monstre publicitaire et marchand que c'est devenu aujourd'hui. Donc lui, quand il crée, alors ça on le sait pas toujours, quand il crée son Académie Goncourt, bon d'abord c'est dans la tradition mémoire en mon nom, un prix des Goncourt, ça devait s'appeler le prix des Goncourt au départ. Mais avant d'être la remise d'un prix, c'est permettre à 10 académiciens d'être désaliénés de l'obligation de travailler dans la presse pour vivre, et donc de ne pas être menacé par cette industrie des lettres qui vient, selon Goncourt, de la presse, et de permettre d'avoir des rentes qui permettent d'écrire son œuvre. Le prix Goncourt, il vient dans un deuxième temps par rapport à cette création donc d'un lieu, d'une espèce de bastion de défense de l'homme de lettres. Alors, le pauvre Edmond Goncourt, il a fait la même erreur que Sainte-Beuve. Il a cru que la littérature industrielle, elle naîtrait du roman feuilleton et de la presse. Et en fait, elle est née de l'édition moderne qui se met en place avant les premiers prix, c'est-à-dire 1830-1850. Et l'ironie du sort, c'est ce pauvre Edmond Goncourt qui crée donc un système de consécration littéraire. Donc dès 1903, le premier prix sera remis, en créant un prix contre la littérature industrielle dont il va devenir un des instruments les plus zélés. Alors, autre cas de cette stratégie en faveur de l'écrivain, alors ce serait plutôt l'écrivaine, j'assume le féminin du mot, c'est la création du prix Femina. Dès 1905, 22 femmes de lettres contestent les injustes sentences du Goncourt naissant, hein, puisqu'il vient de remettre son premier prix. Ça devait être Myriam Mary, donc une romancière très en vogue à l'époque, avec des romans orientalistes, etc., et qui est plébiscitée par toute la presse, toute la critique, la donne comme lauréate du Goncourt, et c'est pas elle qui va avoir le prix. Donc elle se constitue, alors avec les subsides de la maison Hachette, qui est déjà là par d'autres biais, elle se constitue en comité, donc ils sont 10 à l'Académie, nous on sera 22, on sera des femmes de lettres, et on le défendra, voilà, une littérature, alors elles sont pas folles, pas seulement des femmes, parce que sinon c'est le ghetto des femmes qui élisent des œuvres de femmes, donc ça devient très vite ennuyeux, non, elles vont créer un prix véritablement mixte. Et quand on regarde les palmarès, c'est amusant parce qu'elle dénie aujourd'hui hein, les jurés toute influence de la question de l'identité sexuelle, etc. Mais c'est quand même un des rares prix à attribuer ses lauriers à des femmes à 60%, quand la moyenne des prix littéraires, c'est d'accorder les lauriers à des femmes à 10%, hein, maximum. Guère plus. Alors voilà. Mais bien sûr, c'est aussi une revendication pour la femme de lettres d'entrer dans le bastion du droit de désigner. Je me rappelle quand même qu'on est 40 ans avant le droit de vote des femmes. Elles sont là pour essayer d'investir le bastion des hommes hein, dans une conception littéraire très monolithique et de s'ériger en jury capable de désigner de la valeur. Alors elles vont être brocardées de manière inimaginable dans la presse de l'époque. On les appelle le plus souvent le tribunal des pintades. Hein, c'est un des mots les formules les plus gentilles. Voilà, et elles vont être constamment donc. Mais bon, il faut y voir vraiment le souci de rentrer dans un droit d'entrer dans les sphères de la légitimation littéraire. Là encore, c'est la femme de lettres qui trouve ce biais-là. Alors, nouvel indice de cette machine à défendre les écrivains, le prix Médicis. Création en 1958 par Jean-Pierre Giraudoux et Gala Barbizan, d'un prix qui est là pour couronner la modernité littéraire parce que les prix, c'est une littérature d'arrière-garde. Donc, prix d'avant-garde. On donne le prix à Claude Ollier, Claude Simon, Philippe Solers, etc. Et puis, dès 70, qu'est-ce qu'on constate? L'année où Claude Simon donc, va démissionner de manière très tapageuse du jury parce qu'on ne veut pas accorder le prix à Eden de Pierre Guyotat, qu'on va le donner en fait au directeur de la revue Esprit, Camille Bourniquel. Démission de Claude Simon. Et en fait, on se rend compte que là, le prix Médicis lui-même n'arrive pas à infléchir des tendances lourdes du champ littéraire et éditorial, à savoir essor inéluctable du livre de grande consommation, création des écuries d'auteurs, édition dérivée, ça aussi on n'y pense jamais, le prix littéraire c'est pas seulement l'édition originale d'un livre qui va se vendre tout d'un coup à des milliers ou des centaines de milliers d'exemplaires, c'est le passage en poche, ce sont les traductions, ce sont les clubs de livres, le passage en club de livres, donc des mannes, une manne d'argent énorme. Promotion du livre et vedettariat des auteurs qui va aller s'accentuant, donc une médiatisation qui prend le pas sur la médiation littéraire et une industrie du livre qui devient florissante avec ses palmarès, ses lauréats de romans grand public parce qu'il faut asseoir un matelas de vente. Alors dernier sursaut, je dirais, de cette machine à défendre l'écrivain, c'est Hervé Bazin qui aimait s'appeler l'homo goncourensis. 37 ans membre de l'Académie Goncourt, dont président pendant, je crois, une petite quinzaine d'années. Alors, dans les pires moments de la contestation des prix littéraires. Il y entre, donc on est dans les années 70, je vous rappelle, 69, création du Booker Prize, en réaction comme un véritable anti-Goncourt contre les magouilles qui se font en France dans le champ littéraire. Année où on enlève les prix dans les écoles. 70, c'est les années où on arrête de distribuer des prix dans les écoles, c'est un signe aussi. C'est aussi les années où le prix littéraire est devenu un véritable label vendeur. Un label, un instrument publicitaire qui décuple les ventes, bon, et qui fabrique donc de manière très artificielle du succès littéraire. Alors, Bazin, pourquoi j'en parle? Parce que, à l'occasion d'un article qu'on m'avait demandé, je me suis aperçue que la réforme qu'il a essayé de faire de l'Académie Goncourt était une réforme de taille, et qui était là pour, là aussi, défendre l'homme de lettres. Alors, je rappelle ce qu'il a fait, quand même. Création de bourses. Alors, qui ont quel but? Bourse de la nouvelle, bourse du roman historique. D'élargir le champ de la production éditoriale, donc d'échapper un petit peu à l'hégémonie du roman, du tout-puissant roman de la fiction. donc dynamiser des secteurs éditoriaux qui sont en perte de vitesse, poésie, nouvelles, biographie, entre autres. Ouverture à la francophonie, via des, donc là c'est la grande, comme à l'Académie française, rayonnement de la langue à l'extérieur de nos frontières. Création de sélections, il crée des sélections pour essayer d'ouvrir un peu la porte étroite de la consécration et d'essayer d'apporter un éclairage. Alors maintenant, ça a été beaucoup copié, mais à mettre les projecteurs sur plus d'écrivains que simplement le lauréat des prix. Et il rétablit véritablement, bon je passe, hein, l'Académie pendant quelques années dans son rôle et dans son statut d'institution littéraire. Pourquoi ? Il l'a défini, donc en respect avec la volonté d'Edmond Goncourt à l'origine, qui disait Académie pour homme de lettres, rien qu'homme de lettres. Or, on voit bien qu'il y a encore cette idée qu'il faut trouver une institution qui défende l'écrivain. Alors, que fait Bazin ? Je continue avec lui. Il va être partout, dans toutes les grandes organisations professionnelles. On va voir soit le Goncourt, soit Hervé Bazin en personne. Comité de la Société des gens de lettres, SACD. Il va être membre de multiples commissions du CNL, qui s'appelle encore Centre National des Lettres. Il va participer à la bataille pour lutter contre le passage à l'appellation Centre National du Livre, qui, je rappelle, est quand même très symptomatique d'une époque qui passe dans l'industrie culturelle, où le livre devient une véritable industrie culturelle, où c'est l'économie du livre qui prend un peu le pas sur les enjeux de consécration littéraire. Voilà. Alors, on peut se dire, effectivement, pourquoi, moi, je m'étais demandé, quand j'avais fait un article sur lui, avoir défendu pendant tant d'années une Académie vieillissante, bon, lui, il l'avait rajeuni, hein, qui va lui refuser toujours son prix, qu'il lui avait pas donné le prix Goncourt, et en plus qu'il va l'empêcher de rentrer dans la Pléiade. Parce qu'il aura été président de l'Académie Goncourt, il arrivera jamais à rentrer dans la collection prestigieuse de la Pléiade. Donc, ben je pense que c'est quelqu'un qui avait eu un flair exceptionnel sur les mutations majeures du livre et sur l'espèce de ce que j'appelle la désacralisation de l'écrivain, rétrécissement de sa fonction sociale et publique dans le champ littéraire. Il a l'intuition qu'on passe dans le commerce du livre. C'est le commerce du livre qui dicte tout maintenant. Ce sont les années, effectivement, on voit les années 80, hein, 70-80, 80 par exemple, une réflexion sur les industries culturelles qui va passer par exemple par la loi Lang sur le prix unique du livre. On va voir le souci d'une époque de légiférer sur la circulation du livre et sur les conditions de sa commercialisation beaucoup plus que de défendre les intérêts ou le statut de l'écrivain. Ce sont les métiers de l'édition et de la librairie, c'est plus l'auteur qui sont vraiment au cœur des débats. Et c'est emblématique, et même le personnage emblématique de Jérôme Lindon et tout ce qu'il a pu faire dans la défense de ces métiers est révélateur, parce que Lindon, c'est aussi, je vous le rappelle, Jean Echenoz, dans le très beau livre qu'il a écrit sur Jérôme Lindon. Alors certes, c'est une fiction, mais il rappelle le moment où Echenoz, où Lindon lui a dit « vous ne faites plus partie de la maison ». Très, très violemment. Et là, c'est tout ce qui fait l'écart, je pense, entre cette chose, elle aurait été impensable à dire au début du siècle, par un Gaston Gallimard, avec les écrivains qui l'impliquaient, hein, dans les directions, dans son comité de lecture, etc., etc. Donc, l'écrivain, pour faire le bilan, n'est plus au centre du dispositif public. Il n'est plus au centre, il ne décide plus des lettres, ni de leur édition, sauf à être, et on comprend peut-être pourquoi il le devient, directeur de collection, membre des comités de lecture, pour avoir donc une professionnalisation dans les métiers du livre qui lui permet de rectifier un petit peu ça. Il ne participe plus, il n'est plus maître ni de la diffusion des livres, ni de leur commercialisation. Le jury littéraire, lui confère un pouvoir de sélection. Alors c'est peut-être, il est arbitraire, on peut lui reprocher plein de choses, mais c'est quand même un espace public où l'écrivain peut garder une forme d'autorité. Une autorité, auteur, c'est aussi auctor, auctoritas, c'est aussi l'autorité dans la cité. Et on peut voir effectivement dans cette version Bazin du prix Goncourt, par exemple, un effort pour essayer, même si c'était déjà trop tard, de lutter contre la grande machine, le grand monstre publicitaire qui intéresse d'énormes circuits commerciaux que sont les systèmes des prix. Donc l'écrivain, il échappe plus à la fabrique du roman, hein, qui risque de formater ses écrits, d'usiner son image. Il va se retrouver pris dans un système qu'il transforme en label rouge de la littérature, hein, un peu comme on a nos poulets label rouge, mais on a aussi nos écrivains label rouge. La compétition littéraire, elle tient désormais de quelque chose qui est plus le panthéon des grandes œuvres ou la grande bibliothèque des grands auteurs d'autrefois, mais c'est le hit parade, le top 50, l'élection du meilleur produit de l'année. On est plutôt dans ces logiques-là que dans celles d'antan. La fabrique du succès, elle passe par tous les agents du champ littéraire. Elle n'a plus rien à voir avec, je pense, ce désir pour avoir interviewé beaucoup d'écrivains. En tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés, donc c'était beaucoup de lauréats de prix pour ma thèse. L'enjeu du prix, c'était quand même l'invention de soi comme écrivain, c'est-à-dire c'est se définir et trouver un public qui puisse lire et légitimer ce statut d'écrivain. Alors, évidemment, on a des doutes maintenant avec une économie des best-sellers, hein, qui incarne de manière, d'une certaine façon, bien sûr, les prix littéraires, hein, plane toujours, du coup, le soupçon d'une usine, un auteur qui feutrerait sa plume pour essayer d'être bien dans les attentes du marché. Je pense qu'il y a quelques écrivains qui ont pu se tromper dans et aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je donnerais quand même un exemple qui me paraît révélateur. Aujourd'hui, lorsqu'un manifeste d'écrivain, je pense notamment à celui rédigé par Jean Rouault et Michel Lebris en 2007, vous aviez dû voir dans les pages du Monde, un très beau manifeste qui s'appelait « Pour une littérature monde ». Pour une littérature monde, donc, on s'enthousiasmait que les prix littéraires s'ouvrent soudain à une pléthore d'écrivains francophones. Et voilà, c'en était fini du petit hexagone français, nombriliste, etc. Donc, on revendique dans ce manifeste une littérature monde, celle-là même que va d'ailleurs la même année dont va se revendiquer le Clésio, qui sera prix Nobel de littérature la même année et qui défendra cette même référence à la littérature monde. Mais voilà, ce manifeste s'accompagne d'un festival rodé aux méthodes mercatiques et destiné à faire vendre du livre labellisé étonnant voyageur. Qui sourcille aujourd'hui qu'après la FNAC, qui semble avoir oublié qu'elle fut jadis agitateur culturel, les supermarchés Leclerc, rebaptisés espace culturel, créent, non sans un certain cynisme, leur prix Landerneau, et que l'on retrouve en président du jury un des deux rédacteurs du même manifeste militant que j'ai évoqué plus haut. Alors bon, c'est très méchant ce que je dis là, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ce passage au second plan de l'écrivain, dans le même temps où la circulation du livre devient cruciale, en témoigne aussi la démultiplication alors de prix créés par d'autres acteurs de la chaîne du livre, des libraires, des bibliothécaires en tête. Alors, je parlerai très vite du prix des libraires, qui est très ancien et s'est créé en 1955. Il n'a commencé à vraiment avoir, je pense, l'assise et l'aura qu'on lui connaît, le succès qu'on lui connaît, que depuis les années 95, c'est-à-dire à peu près quand le CNL est devenu Centre National du Livre. C'est amusant, ces coïncidences. Donc, le prix des libraires, comment il se crée ? Il se crée dans des années où, effectivement, la concurrence est terrible pour la librairie, concurrence du poche, des clubs de livres, inflation des offices, donc asphyxie de la librairie indépendante, démultiplication des points de vente, atomisation d'une profession gangrénée par toutes sortes de commerçants qui se servent du livre au lieu de le servir. Hein. Difficulté donc à résister à une surproduction éditoriale endémique et souci de défendre une profession fondée sur la découverte et le conseil, la diversité du fond. On crée un prix. Donc le prix, là encore, c'est pas tellement l'écrivain qui va être couronné, c'est beaucoup plus la profession qui va trouver une autorité légitime à désigner de la valeur, à essayer de revendiquer un rôle en matière de conseil pour promouvoir une diversité éditoriale, etc. Donc il est ce prix des libraires, il est vraiment le signe, pour moi aussi, d'une époque soucieuse, là encore, de légiférer sur les conditions de la commercialisation du livre, de défendre les intérêts menacés donc des métiers de l'édition et de la librairie. Alors depuis, il y a d'autres prix qui se sont créés. Hein, les libraires labellisent leur propre choix, avec ou sans prix littéraire. Hein, d'ailleurs, les réseaux de l'Arbre à Lettres, 1000 pages, la FNAC, etc. Tout le monde peut là aussi proposer, prescrire du livre. Mais je pense que le prix des libraires, il était pionnier dans cette recherche d'une voie directe de légitimation littéraire, sans allégeance avec les institutions académiques et les jurés traditionnels, et avec une espèce, donc, au lieu d'avoir une prescription verticale venant des élites lettrées, on va avoir une prescription horizontale, une espèce de prescription de proximité. On va essayer d'être au mieux, au plus près du lecteur consommateur qui a envie de lire des livres intéressants. On pourrait dire la même chose des bibliothèques dans le secteur jeunesse. Bon, je suis obligée de passer. Autre signe, je pense, de l'aggravation de la... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la relégation auctoriale dans tout ça. C'est-à-dire l'écrivain qui est de plus en plus oublié dans le phénomène. Ben, c'est la prolifération, depuis les années 70, d'une multitude de prix populaires, dits prix alternatifs, donc à jury tournant. Ces prix sont indissociables de la formidable poussée de la lecture soutenue par les pouvoirs publics dans les années 80. Hein. Salon du livre de Paris qui va être créé, la fureur de lire, enfin toutes ces actions qui sont menées par l'État, hein. Et puis les actions des DRAC, des CRL, bon, etc., je passe, mais aussi la démultiplication donc, de tribunes, où on va voir des voix d'amateurs anonymes invités à se faire entendre et à donner leur point de vue, qui vont concurrencer donc, les jurys traditionnels, mais qui bouleversent du coup profondément le jeu de l'expertise littéraire. Alors, cette entrée des amateurs, bon, je prendrais pour exemple prix du Livre Inter, RTL Lire, le Grand Prix des Lectrices de Elle, est née donc de cette culture de masse, des industries culturelles, la contestation des élites académiques traditionnelles, hein, et c'est désormais l'opinion publique qui se fait entendre, qui se substitue au rituel traditionnel fondé sur le verdict implacable des autorités lettrées, mais cette fois-ci le rituel démocratique du plébiscite. On est dans le plébiscite démocratique. Donc s'impose avec ces prix une réalité nouvelle du livre, du champ littéraire, pardon, d'un marché reconnu comme une instance de légitimation littéraire, et une espèce de, alors c'est un peu méchant, mais une espèce de mentalité audimate qui sévit dans tous les secteurs du champ culturel, et avec des noces singulières entre consommation littéraire et jugement critique, culture littéraire et culture du marché. Servi par des mises en scène médiatiques, radiophoniques ou télévisuelles, comme vous voulez, dans lesquelles l'amour de la lecture des romans est érigé en force de vente et aussitôt récupéré par les éditeurs qui font de ces nouveaux prix des labels sur lesquels se positionner. Alors, je peux entrer dans le détail d'une étude que j'ai pu faire. Les prix, donc ces prix alternatifs censés purifier le système, les éditeurs se le sont accaparés et se positionnent sur eux, malgré les jurys et malgré leur volonté de que ce soit le cas, parce que ce sont des labels vendeurs. Alors pourquoi on a besoin de labels? Parce que dans une époque de surproduction, de pléthore éditoriale, il faut bien avoir une fonction de tri et de valeur, désignation d'un tri et puis quelque chose qui puisse désigner de la valeur pour qu'on s'y retrouve un petit peu. D'où, il me semble, le succès de ces prix et de ces prix soutenus par des médias modernes qui y trouvent, hein, ne soyons pas naïfs, qui trouvent dans cette mission de service public, donnant la parole aux lecteurs ou aux auditeurs, quelque chose qui n'exclut pas, bien sûr, des intérêts commerciaux évidents, fidéliser le lectorat d'un magazine féminin ou fidéliser un auditoire d'une radio populaire bien connue. Alors, plus récemment, un autre prix qui est intéressant, c'est le Goncourt des lycéens. Alors, créé en 1988 à l'initiative du rectorat de Rennes, et de la FNAC, hein, de Rennes, qui inaugure alors là un nouveau contrat de confiance, un nouveau label. Celui qui, alors toujours dans la mouvance de l'aide à la lecture, puisque nos jeunes, soi-disant, ne lisent plus, il faut soutenir le livre et la lecture. Donc, on va créer un prix qui va avoir un capital de sympathie énorme. Pourquoi? Ben parce que ce sont des lycéens qui sont pas dans le champ littéraire, ils sont pas impliqués dans les magouilles des éditeurs, etc., qui vont désigner un prix, donc toujours jury tournant, guidé donc par le seul enthousiasme et la seule curiosité des textes, à lire la production littéraire contemporaine. Alors, la force symbolique, on la voit bien, elle vise à... C'est un prix à la fois éducatif et littéraire, et c'est tellement dans la confusion de ces deux champs, le champ éducatif et le champ littéraire, qu'on en oublie l'étrange partenariat, quand même, entre l'éducation nationale et la FNAC. hein, la FNAC, donc des logiques antagonistes hein, qui travaillent ce prix et qui le placent quand même sur un positionnement qui est clairement commercial, puisque ses ventes arrivent certaines années à rivaliser avec celui de l'aîné Goncourt qui y trouve... Pardon ? Et c'est sur la liste du Goncourt en plus, voilà. Oui. Tout à fait. Donc c'est pour le Goncourt une occasion rêvée d'avoir une espèce de sous-label qui entretient son image, etc. Ça, c'est tout à fait vrai. Ou post-rénovation, tout à fait. Alors les écrivains primés, eux, ils s'y trompent pas. J'ai une étudiante qui a travaillé sur la façon dont les lauréats du prix du Goncourt des lycéens percevaient le prix. Et eux, bof, bof, hein, c'est quand même un prix mineur parce que c'est des lycéens quand même. C'est pas le public adulte pour qui on écrit ou dont on aimerait être lu, en tout cas. Donc, et puis ils se retrouvent, alors les écrivains, c'est ça qui moi m'intéresse, dans une posture un peu étrange. Pourquoi ? Parce qu'alors il y a tout un rituel, hein, faut aller dans les écoles, dans les lycées, faut voir les profs, faut rencontrer les lycéens, il y a des débats, etc. Et en fait, l'écrivain, il se retrouve converti en une espèce d'expert de l'écriture qui rivalise avec le prof dans les classes avec le professeur, à l'heure où l'institution littéraire, elle est un peu déclinante et un peu dévaluée. Et du coup, l'écrivain, il fait penser à ces entrepreneurs de morale dont parlait Howard Baker, c'est-à-dire ceux qui désignent ces acteurs sociaux qui se mobilisent pour définir ce qui est déviant et ce qui ne l'est pas, ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, et qui trouvent une espèce de fonction éducative et morale et politique inédite dans cette version donc de l'écrivain professeur, version professorale de sa fonction. Et du coup, moi, je m'étonne plus qu'un député UMP bien connu ait reproché l'an dernier la lauréate du Goncourt, Marie Ndiaye, pour pas la nommer, prise pour une véritable fonctionnaire des lettres, hein, comme si elle était enseignante, donc du coup, d'avoir trahi son présumé droit de réserve en disant qu'elle préférait Berlin à Paris. Rélégation octoriale, donc rétrécissement quand même qui interroge hein, de la fonction de l'écrivain dans la cité. Que devient l'écrivain lauréat dans cette espèce de Babel de prix labellisé ? Est-ce qu'on n'est pas face à un écrivain soluble dans le marché ? Et est-ce qu'Internet offre une alternative ? Donc quelques pistes sur mes dernières recherches parce que je n'en suis qu'au balbutiement, c'est Internet. Alors je pense que Internet c'est une vraie révolution de la fonction auteur, de ce que Michel Foucault appelait la fonction auteur, mais je pense pas que ça, j'essaie en quelques mots pour aller vite, je ne pense pas que ça va mettre en péril, bien au contraire, le système des prix. Donc je vais essayer de vous le montrer rapidement. Alors, le réseau des réseaux, bah, c'est un pas de géant franchi dans la démocratisation de la sociabilité littéraire. Donc ça, c'est un phénomène qui est tout à fait manifeste. Sociologues, anthropologues s'y intéressent déjà. La communauté des illettrés, hein, pas des illettrés, j'oserais pas confondre les deux. Des réseaux donc nouveaux de sociabilité littéraire qui se fondent sur le plaisir de lire, l'échange, la transmission d'émotions, de jugements esthétiques, et qui rétablissent, alors ce qu'un sociologue a très bien montré, le bouche à oreille, c'est-à-dire le buzz dans la consommation littéraire, en faisant communiquer, au lieu de s'opposer, la bibliothèque et la librairie, le loisir littéraire et le commerce du livre, l'espace domestique, l'espace marchand, le patrimoine et l'effet de mode. Alors la publicité culturelle, elle est contraire à la réclame, c'est-à-dire c'est pas faire de la pub, mais c'est la possibilité offerte aux citoyens de participer au débat culturel. Donc ça c'est un sociologue qui définit ainsi la publicité. Hein, donc participer au débat public. Donc ça Internet ouvre cette voie-là. Alors sans aller jusqu'à donner vie à ce dont Barthes rêvait, c'est-à-dire cette société des amis du texte. Qui se passerait de tout lien avec le champ littéraire, la critique, etc. On peut y voir quand même une espèce de société d'amoureux de la lecture qui sont assez indifférents hein, au diktat de la critique et du marché, l'industrie du livre, en tout cas dans une première apparemment. Hein. Et on y voit un devenir lecteur proche du lecteur braconneur dont parle Michel de Certeau hein, dans un très beau texte, s'y incarner, s'y développer selon un régime convivial où amateurisme et consumérisme hein, se réconcilient dans une espèce de domestication apparente du marché du livre. Alors, bien plus, les sites, les blogs, les forums, les réseaux sociaux dynamitent une frontière qui existait jusque-là, c'est celle qui séparait amateurs et professionnels. Donc ça, c'est très intéressant de voir exploser cette frontière sans pour autant remettre en cause la croyance collective en un jugement critique capable de désigner l'excellence littéraire. C'est-à-dire que on va voir au contraire la ritualisation de la lecture et du plaisir du livre contribuer à ce que l'écriture en ligne apparaisse comme un instrument de représentation d'une véritable conduite littéraire où le jugement profane travaille à faire oublier qu'il est profane, veut chercher à se rendre légitime son propos, ses goûts, sa définition de la qualité littéraire. Rien d'étonnant dès lors que des prix littéraires commencent à émerger sur Internet. Alors c'est amusant de voir le spectre qui s'ouvre. Il y a ceux qui contestent, mais qui imitent en même temps, qui continuent d'imiter les protocoles, les rituels habituels. Alors, soit sous le mode de la parodie, ça c'est amusant, dans une démarche complètement ludique et un peu iconoclaste, inhérente d'ailleurs aussi à l'usage d'Internet, je crois, dans certains espaces. C'est le prix Bartleby du roman inachevé. C'est-à-dire qui est donné, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est donné, voilà, à un livre ni fait ni à faire, ni écrit ni à écrire, qui a pour récompense, alors le lauréat gagnera le droit de ne pas achever son écrit, son œuvre inaboutie sera publiée en l'état par un éditeur audacieux ou pas. Et le prix a été donné en 2009 à Florian Zeller pour l'ensemble de son œuvre, ce qui est très. Qui est très méchant. Alors, le prix Bartleby, version parodique de l'imitation des prix. Alors après, il y a ceux qui se battent pour véritablement, là, très sérieusement, imposer une nouvelle définition légitime de la littérature, celle dictée par le « j'aime pas » des lectures sincères, studieuses, documentées, avec des fiches et tout, et par l'intérêt porté, alors soit aux marges du marché, aux oubliés de la société des spectacles dont je parlais tout à l'heure, dans la défense très militante de la petite librairie ou de la petite édition indépendante. Je pense au prix, par exemple, Biblioblog, qui est vraiment sur ce prix associatif, au départ une blogueuse, une bibliothécaire qui crée son blog, et puis ça prend de l'ampleur, puis ça devient quelque chose, une association, c'est très sérieux, etc. Soit c'est, on met en valeur par un prix des genres ou des formats éditoriaux pas tellement engagés dans la, ou pas du tout dans la course au prix littéraire habituel, c'est-à-dire pas du roman ou de la littérature générale, mais alors ça c'est le par exemple le prix des lecteurs lectrices de critiquelibre.com, où le prix est donné à la fois alors à une BD, à un ouvrage de francophonie, à un policier et à un vrai livre de découverte. Et puis il y a encore une et un étranger, un livre étranger. Ou alors il y a encore le prix qui répond au goût des internautes habitués à visiter un magazine en ligne. Ça, c'est Internaute Magazine qui a créé son prix de l'internaute. Soit c'est encore la promotion de la lecture et l'aura mécénique que peut en tirer une enseigne qui a rien à voir a priori avec le livre. Je pense au prix Orange du livre, donc créé par le fournisseur d'accès Internet et le groupe de télécommunications bien connu, dont Éric Orsenna, académicien français, est le président. Donc par un étrange retour des choses, l'Académie française se modernise et retrouve une entrée inattendue dans le champ des nouveaux prix littéraires. Bon, voilà. Donc des prix au maillage plus convivial, voire affectif, hein, qui réactivent des mises en scène, c'est amusant, et des jeux qui sont ceux des jeux de salon d'autrefois. Donc c'est pas très nouveau, c'est pas très inédit. C'est aussi les vieilles règles rhétoriques de ce qu'on appelait autrefois la disputatio, où on se dispute de manière rhétorique en ligne autour d'un texte, là autour d'un livre. Dans un curieux donc retour aux sources qui ont vu naître les premiers prix littéraires, qui étaient des prix mondains ou des prix de cénacle comme l'Académie Goncourt. Donc avec ou sans prix, en tout cas des tribus de lecteurs parcellisent le goût et les choix de lecture, émiettent les avis, brouillent du même coup les catégories du jugement critique et de la désignation de la qualité littéraire. Donc on voit une nouvelle territorialisation littéraire naître, des espèces de villages, comme les appelle Maffesoli, c'est-à-dire ça se côtoie mais sans s'interpénétrer, c'est solidaire mais ça reste solitaire, un peu à la fois un peu dans son coin, enfin voilà. Et puis, mais selon un mode d'existence que la technologie alors rend fondamentalement éphémère. Hein, le blog, il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont éphémères. Et ce qui, du coup, ne condamne pas du tout les formes traditionnelles de la prescription habituelle, mais les rend à l'inverse nécessaires. C'est-à-dire le prix va sûrement trouver d'autres voies de développement dans cette forme numérique pour échapper pour garder trace d'un système ou d'une technologie Internet qui, pour le moment, n'est pas du côté, est plutôt du côté de l'éphémère. Alors bien plus, et je finirai là-dessus, cette déprofessionnalisation du jugement littéraire via Internet, la revendication du droit de faire droit au jugement du profane qu'on voyait déjà dans les prix populaires alternatifs, de faire admettre, je cite encore un sociologue, le prix, le public comme une instance critique, ne se joue pas que dans la promotion et la parole de l'amateur, c'est-à-dire celui qui, amateur au double sens, hein, qui n'est pas professionnel mais qui est aussi fan, qui est celui qui aime et qui défend ce qu'il aime. S'y affirme, alors c'est là, mais là où j'en suis dans mes balbutiements, une nouvelle forme, une forme hybride de lecteur, et un nouveau, quelque chose appelé, alors du néologisme affreux, mais au moins il a le mérite d'être compris, le lect-auteur. C'est-à-dire le lecteur qui va entraîner, le lecteur numérique, internaute, où moi je lis une mutation majeure du rapport à l'écriture, à la lecture et à la littérature. Alors pourquoi ? Parce que l'écriture de l'internaute amateur, elle est tout le contraire d'une écriture spontanée et improvisée. C'est une écriture qui se met en scène, c'est une écriture concertée. L'écriture de l'internaute, les rituels d'appartenance aussi qui la structurent, en font le lieu d'une communication soumise vraiment au triple régime de la raison, c'est-à-dire souvent c'est on produit une lecture argumentée, de l'affect, je partage mon expérience intime du livre, ma lecture, ma passion du livre, et une approche esthétique, j'émets un commentaire et je suis légitime pour émettre un commentaire littéraire et aussi produire un discours littéraire. Donc même dans la sphère de la critique littéraire, la concurrence du coup elle est rude, hein, entre le très conventionnel blog de Pierre Assouline, La République des livres, celui très guimauve de Chez Clarabelle, que je vous conseille, qui a un grand moment de... étonnant, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce blog, ou le blog associatif de Biblioblog, ou encore celui que moi j'aime beaucoup parce qu'il est très érudit et très pamphlétaire, c'est Stoker, dissection du cadavre de la littérature contemporaine, où il y a de très belles pages littéraires, hein, quand même. Et là, c'est intéressant, c'est un blogueur qui se sert d'un blog pamphlétaire, il est, je ne sais plus combien de procès, hein, Juan Asensio, mais qui cherche le moyen de rendre visible un travail d'écrivain. Je le sais parce qu'il me l'a dit. Hein. Donc à tout le moment, on va retrouver la formule, la prémonition qu'avait eu Walter Benjamin, à tout moment le lecteur est prêt à devenir écrivain. Ben, je crois que le numérique vérifie cette affirmation. La transmission du plaisir littéraire devient un moyen d'expression aussi littéraire de soi. Donc ce lecteur, certes, il se prend pas pour un écrivain ou un grand écrivain, c'est un écrivain second qui va écrire, un auteur second qui écrit sur l'œuvre ou des textes qui ont été écrits par d'autres. Mais dans bien des espaces quand même de la toile, quand on y regarde bien, se développe un devenir de lecteur. Moi, quand je vois la mode qu'il y a actuellement dans le monde du fandom, donc et des fanfictions, vous savez, ces réécritures ou ces continuations de livres, de best-sellers. Quand on voit se développer ces modes d'écriture numérique, j'ai l'impression que ça corrobore cette idée donc d'un lect-auteur, ce mutant qui apparaît via Internet. Donc signe de l'importance en tout cas de cette révolution numérique pour l'auteur et lect-auteur, des jurys littéraires du prix des lectrices de Elle et aussi du prix Orange du livre et du prix Landerno dont j'ai évoqué tout à l'heure, courtisent maintenant ces blogueurs et blogueuses, de même que les auteurs qui voient en eux un nouveau droit d'entrée en littérature. Et les éditeurs, une nouvelle manière d'accroître encore leur matelas de vente. Donc les prix littéraires, je pense qu'ils ont encore de bons jours devant eux. Et il y a fort à parier que les outils de la création, de la sélection qu'ils représentent, se feront de plus en plus aigus dans la babel des livres. Et que le bruyant babil des avis d'internautes et la cacophonie du buzz nécessitera toujours des instances désignant, enfin faisant le tri et désignant de la valeur. Alors reste à se demander ce que cette démocratisation du jugement littéraire produit. Est-ce que c'est une nouvelle impulsion donnée, je l'espère, à la création inventive et originale et à une médiation littéraire de qualité, ou bien si c'est l'adhésion participative de tous à la littérature en train de s'écrire. Mais alors du coup, est-ce qu'on ne condamne pas en même temps ce que Benjamin appelait l'aura de l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique ? Voilà, je vous remercie. Désolée, j'ai dépassé ma
ligne. Oui, non, mais ça valait le coup, je pense. Enfin, vous serez sans doute d'accord. Voilà, c'est un bon. Votre exposé propose de nombreuses pistes très paradoxales, voire parfois polémiques. Donc, je pense que ce serait bien qu'on prenne un peu de temps pour en parler. Marie-Rose Garnier avait déjà anticipé un petit peu sur ces échanges, mais bon, on va peut-être pas la solliciter d'abord puisque elle va avoir évidemment une large plage de temps pour faire état de son expérience et des avis qu'elle a pu se former à partir d'elle. Mais ce serait, je pense, ce serait intéressant qu'il y ait un petit moment d'échange sur l'ensemble, je crois, sur la partie historique, sur l'évolution, le rôle d'Internet aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un veut oui. se lancer?
Voilà.
J'ai pas du tout cette impression là.
Les auteurs. De se prendre pour des auteurs.
Ouais, j'ai pas du tout cette impression là. Mais bon, surtout quand on voit ce que certains écrivent, je pense pas.
Non, je suis d'accord. Bon. Mais dans beaucoup d'espaces quand même, il y a un vrai souci de l'écriture et où on peut se dire quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de passer de la promotion d'un lecteur ? Ça fait longtemps moi que je vois qu'on les catégories se sont déplacées. C'est plus tant la consécration de l'écrivain que la promotion du lecteur. Est-ce que ce lecteur roi, là, qu'on met comme ça, qu'on gratifie, etc., n'est pas tenté, lui aussi, d'adopter des postures qui sont quand même celles qui ressemblent étrangement à une volonté, peut-être. Je dis pas tous, hein, mais certains, il y a des velléités d'écriture, je pense.
Alors, monsieur voulait poser une question. Je vais vous demander à chaque fois d'attendre que j'arrive avec le micro. Je vous remercie.
Bonsoir, merci pour votre bel exposé. Je retiens donc que vous pouvez parler de la médiatisation, non, d'abord de la médiation littéraire. Vous avez parlé aussi donc du rôle du prix littéraire pour faire de la valeur et de l'écrivain qui devient un faire-valoir du prix et qui disparaît ainsi. Et le développement de l'Internet, est-ce que tout cela n'est pas symptomatique aussi d'un affaissement des médiums classiques de la médiation littéraire, à savoir justement les journalistes littéraires, la critique littéraire, qui justement est là pour faire ce travail normalement de critique, de tri, de choix par rapport à la pléthore d'ouvrages qui nous abreuvent à chaque rentrée littéraire. Comment justement on a l'impression quand même que cette critique littéraire, ce journalisme littéraire a disparu d'une certaine manière, enfin plus ou moins à des espaces très résiduels dans les grands journaux, il y a très peu de pages, et la télévision, on a l'impression que justement ils sont devenus les faire valoir aussi des prix littéraires et de l'édition, et que comment se distinguer de simples espaces publicitaires dans lesquels les auteurs et les éditeurs sont des annonceurs. Comment retrouver leur spécificité. Justement, j'ai l'impression que c'est à cause de cet affaissement-là que ça laisse aussi la place, heureusement, à l'Internet pour que chaque lecteur puisse commencer à s'exprimer et à faire ce travail-là sur Internet de tri et de dire où est la valeur. Que pensez-vous justement du devenir de la critique littéraire et du journalisme littéraire à justement à l'époque, à l'aune de ce que vous avez raconté sur l'histoire des prix?
Enfin, moi, je suis pas à la pitié. Hein, je sais pas ce qui va. Je crois qu'on est au tout début.
C'est à la fois une question pour Sylvie Ducas, mais également pour Nicolas. Je pense qu'il y aura
avant
sûrement des choses
parce
à dire.
On vient de dire
et ce sera une très bonne transition pour sa présentation.
Mais je crois que moi, plus largement, c'est une crise de toutes les autorités qui désignent, qui prescrivent. Il y a toutes les autorités, qu'elles soient politiques, lettrées, universitaires aussi. Hein. Moi, je suis universitaire. Je sais aussi qu'il y a une crise de cette autorité universitaire. Qui donne une impulsion énorme, effectivement, à cet engouement, qui explique un engouement pour démocratique, qui est très bien, hein, cette démocratisation, cette envie de. Il y a un très beau livre sur l'amateurisme de Claude Pauliac, là, ça s'appelle Aux frontières du champ littéraire. C'est un très beau livre qui montre bien que finalement les réseaux amateurs et les réseaux professionnels, mais ils se ressemblent aussi étrangement. Ils ont leurs rituels, ils ont leurs institutions, ils ont leur espace très balisé, etc. Donc la crise de la critique et du jugement critique, elle est aussi ancienne que la crise du roman. Je vous rappelle quand même que la première fois qu'on parle de crise du roman, ça devait être en 1870, au moment où le naturalisme commençait un peu, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est une espèce de tarte à la crème aussi, hein, la crise du roman, la crise de la critique littéraire, etc. Bon, je crois qu'il y a toujours eu des bons critiques littéraires. Mais je crois aussi, j'ai essayé de vous montrer qu'aujourd'hui, bon alors peut-être c'était une façon de penser le champ littéraire avant, les arguments, enfin, il y a pas, le livre c'est un objet ambivalent, c'est un objet à la fois marchand et c'est aussi un objet qui véhicule un imaginaire, une valeur littéraire, etc. Donc je crois qu'il faut pas penser, on peut difficilement penser l'un sans l'autre. Mais il faut pas se tromper non plus sur Internet, je pense qu'Internet pas plus. Ne permet, faudrait pas dire qu'Internet serait cette espèce d'espace qui va corriger à la fois, enfin voilà, tous les manques ou les manquements du champ littéraire traditionnel. Mais cette crise d'autorité, elle est quand même, oui, elle pose problème, hein, elle interroge. Crise d'autorité qui est liée, oui, à la conjonction et aux influences mutuelles qu'il peut y avoir entre des logiques marchandes et des logiques de légitimation littéraire. Non, non, c'est vrai.
Non, mais je pense que effectivement, on pourrait dire que Balzac a tout dit.
Ben oui.
Il a écrit la physiologie de la critique et c'est un petit livre qu'on trouve à 2 euros en mille et une nuits. Et je vous encourage à le lire si vous vous intéressez à la chose. Si vous voulez être critique, il vaut mieux le lire avant pour savoir si on est sûr de vouloir faire ce métier. voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, plus il y a de médias, enfin on a posé plus il y a d'espace pour émettre des jugements, plus il y a à la fois un danger pour la critique traditionnelle et en même temps plus il y a besoin d'une hiérarchisation de cet espace lui-même, hein, c'est-à-dire que bon, il faut faire un tri parmi les trieurs, si j'ose dire. Voilà. Alors, ça veut dire que pour le critique, pour une certaine critique, ça peut être un danger, c'est vrai. Ça peut être un danger parce que le critique professionnel ne se distinguera de moins en moins du critique amateur, d'autant que les critiques professionnelles, ça n'existe pas. Ce sont tous des amateurs qui sont passés professionnels à un moment ou à un autre. Il n'y a pas en France d'enseignement de la critique littéraire. Ça n'existe nulle part, hein, ni dans les écoles de journalisme, ni à l'université, sauf peut-être maintenant que ça commence à se faire, mais j'en suis pas sûr en tout cas. Il y a des séminaires sur la critique qui existent. Mais enfin, disons que c'est quand même quelque chose qui est assez peu...
C'est pas marginal, mais t'as des masters quand même, des formations
oui, alors ça
à la critique littéraire. Hein.
Ça existe, mais vraiment, c'est récent en tout cas. Hein, c'est très récent. Alors, c'est vrai que la plupart des... Bon, je peux témoigner des stagiaires, par exemple, qui m'envoient des articles. Certains, je peux les publier en l'état. Et d'autres pas, donc il y a effectivement un véritable amateurisme, bon, de valeur, si on peut dire. Mais après, je pense que c'est tout simplement un défi pour un critique qui a l'ambition de faire son métier, de remplir une fonction qui sans lui n'existerait pas. Ça veut dire que ça va monter la barre, parce que effectivement, je pense que la critique j'aime pas, ça va plus être le monopole d'un certain type de médias. Ça c'est la plus facile d'ailleurs, c'est pas à proprement parler de la critique, c'est une sorte d'information d'un lecteur semi-professionnel sur ses expériences. Bon, ça peut avoir toute sa valeur, c'est un genre en soi, il y a des gens qui le font parfaitement et que d'autres critiques ne pourraient absolument pas faire, mais c'est vrai que bon, un certain type de critique et à mon avis condamné à se banaliser ou à évoluer. Et voilà, c'est chaque fois que c'est été le même problème quand on est passé à la radio, à la télévision, quand les libraires ont commencé à faire de la critique, je dirais avec des post-it dans les librairies. Forcément, je connais des critiques de presse qui ont tordu un peu le nez en disant mais voilà, c'est à moi de faire ça, quoi. Donc il y a pas de problème pour ceux qui ont une conception de leur métier qui les amène, qui les pousse à évoluer, et je crois que ça se fera aussi sur Internet. Bon, il n'est pas exclu qu'un jour il n'y ait plus de critiques dans les journaux, mais que sur Internet il y aura des blogs renommés et des blogs particulièrement nuls, voilà, qui seront peut-être tout aussi fréquentés d'ailleurs.
Merci. Une autre question ? Eh bien, je pense qu'il est temps de passer peut-être à cette table ronde. Ah, excusez-moi, monsieur, j'arrive.
Oui, bonsoir. Je voulais juste observer faire deux observations s'agissant des prix d'une part et d'intervention d'Internet. Concernant les prix, je crois que les prix ont toujours existé, ont été contemporains à la création de l'écriture. Quand on observe l'Égypte antique, où l'écriture est née il y a moins de 3400 ans par rapport à l'ère occidentale, les scribes de cette époque-là avaient vraiment, il y avait une concurrence entre les scribes qui faisait que c'était vraiment des gens très cotés dans la société. Et cette cotation correspondait véritablement à un prix. Et ce prix-là, je crois que Jean-François Champollion l'a démontré au début du XIXe siècle, en montrant que leur travail, la qualité de leur travail, a permis de connaître cette civilisation qui est à l'origine de la civilisation humaine, en tout cas. S'agissant d'Internet, je crois que c'est la même chose. Si on voit le travail, le côté lecteur, le lecteur qui devient presque fou. Là également, Jean-François Champollion le démontre bien. Il est mort quasiment d'avoir voulu comprendre le message qu'avait été laissé par des auteurs qui n'avaient peut-être pas pensé à durer autant. Et ce côté Internet qui... Je crois que, comme on le dit un peu en marketing, on ne crée jamais... Internet ne créera pas quelque chose. Les choses sont là, on les observe ou pas, on les remarque ou pas, mais en fin de compte, il y a un nouveau média qui fait que elle s'exprime, les choses s'expriment, et puis, en fin de compte, bon, il y aura une continuité. Mais je vous remercie pour cette soirée.
Elle n'est pas terminée. Vous voulez réagir à...
Moi, je vais étendre mon champ d'études des prix littéraires, donc je vais remonter à l'Égypte ancienne. Et...
Alain-Nicolas, est-ce que c'est le moment pour vous de nous présenter la rentrée littéraire ?
Oui, voilà. Alors, on m'a demandé, Emmanuel Payen m'a demandé de me livrer à cet exercice. J'ai accepté, sachant que c'était... d'avance voué à l'échec, de présenter la... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'ailleurs. mais de présenter la rentrée littéraire. C'est-à-dire, je m'explique. Ce qui est évidemment impossible, c'est de présenter quelque chose qu'on appelle la rentrée littéraire, c'est-à-dire de... Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui disent ça, hein, qu'ils ont lu les livres de la rentrée et qui vont proposer les meilleurs. Voilà. Même en s'y mettant à plusieurs, même à beaucoup, c'est probablement pas faisable. Voilà, présenter la rentrée littéraire au moment où, enfin, comme on dit dans le théâtre, les scènes d'exposition ont été jouées, ça peut sembler vain. On peut donc revenir justement sur la mise en scène de ces premiers moments de la pièce qui est en cours d'être jouée, puisqu'on sait déjà maintenant que sur les quelques 500 livres qui ont été proposés aux lecteurs entre, disons, la mi-août et maintenant, il y en a une cinquantaine, peut-être une centaine, je n'ai pas compté exactement, qui se sont retrouvés dans les sélections de prix, qui se sont retrouvés dans les listes de best-sellers et qui se sont retrouvés, je dirais, sous la lumière des projecteurs. Et quand on parle de la rentrée littéraire, on va d'abord parler de cela. Mais c'est surtout, je voudrais d'abord témoigner, puisque du fait que, année après année, on s'habitue jamais que... vont arriver en quelques semaines environ 200 ou 300 kilos de papier qui va falloir inventer non pas avant de penser à l'alchimie du verbe, il va y avoir une physique du pavé à inventer, et que à la fin de l'année le métier de critique littéraire, c'est d'abord celui de quelqu'un qui va manutentionner à peu près une tonne de papier, voilà, qui vont passer dans les couloirs, dans les bureaux, sur les paliers, devant les ascenseurs, revenir, etc. Voilà. Dans des cartons, sortir, rentrer, voilà. Bon, c'est anecdotique, mais en même temps, ça donne bien l'idée que je pense que c'est d'abord ce type de défi qui s'impose, et puis ensuite l'injonction de parler de la rentrée littéraire. Alors, parler de la rentrée littéraire quand on propose cette question à quelqu'un qui est journaliste, parce que les critiques sont avant tout, je crois qu'il faut pas l'oublier, des journalistes, c'est lui donner pour tâche de travailler sur un marronnier, comme on dit, c'est-à-dire le sujet saisonnier et récurrent qui incite à dire tout le temps la même chose. Alors, pour éviter ça, il va d'ailleurs se faire un devoir de trouver, d'abord de se renouveler, parce que sans ça c'est mortellement ennuyeux, et donc de trouver ce qu'on appelle un angle, puisque la charte des voilà les 10 commandements du journaliste, il y a le premier, c'est que tout papier doit avoir un angle, c'est-à-dire qu'on va essayer de lui faire abandonner la vision de 90% de la réalité pour se concentrer sur 10% en supposant que c'est ça qui va intéresser le lecteur, qui va peut-être l'intéresser lui à faire, parce que évidemment ça va probablement l'empêcher de succomber à l'ennui. Et donc chaque année, il y a un angle qui est adopté par les critiques. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc je n'ai pas parlé de la rentrée littéraire, mais de la rentrée des pages littéraires. Voilà, ce qui est presque la même chose, mais voilà, qui est peut-être à mon avis un peu plus honnête. C'est-à-dire que cette année, donc si vous avez regardé les pages littéraires de certains magazines et de certains quotidiens. Je pense à Télérama, je pense au Monde et je pense au Figaro, en tout cas, qui eux en ont fait des gros sujets. C'est la rentrée du monde du travail dans la littérature. Voilà. Alors, ça c'est évidemment une très très belle trouvaille de la critique, c'est-à-dire que on a effectivement quand on cherche on trouve forcément, hein, c'est-à-dire que je me souviens qu'en 1992-93 c'était la rentrée des femmes barbares, voilà, donc la sexualité féminine s'affichait dans les romans de la rentrée, donc on avait un magazine, Le Nouvel Observateur avait fait une sorte de de panorama de femmes qui étaient considérées comme des barbares, et on avait embrigadé aussi bien Virginie Despentes qu'Isabelle Rossignol, etc. Donc des romancières qui se sont retrouvées confrontées à leur propre barbarie qu'elles devaient assumer jusqu'à Noël. Voilà. Et voilà. Et donc il y a eu évidemment la rentrée de la mémoire, la rentrée de l'histoire sous ses différentes formes, la guerre d'Algérie, le 11 septembre et 2001, etc. Donc il y a eu évidemment beaucoup de rentrées comme ça, et cette rentrée c'est la rentrée du monde du travail où on a effectivement trouvé. Alors je ne veux pas dire du tout qu'il y a aucune pertinence à cette vision là donc il y a 6 romans, hein, sur 500 qui parlent de façon qui sont très centrés sur le monde du travail. Il y a L'Enquête de Philippe Claudel, il y a Plan Social de François Marchand, il y a Nous étions des êtres vivants de Nathalie Kuperman, Retour aux mots sauvages de Thierry Bestingel, et puis de façon un petit peu plus latérale, Jean-Claude Lalumière, Le Front Russe, et Philippe Vassé, Journal intime d'une prédatrice. Voilà. Alors, on pourrait évidemment se dire que, on pourrait en vain d'ailleurs, parce que c'est pas la peine, le label, là, pour le coup, a été posé, et c'est autocollant, on peut plus le retirer. On pourrait dire que Bestingel, c'est son cinquième livre sur le sujet, que les livres précédents, parlait de la vie dans un central téléphonique, qui parlait de la vie de quelqu'un qui faisait 15 kilomètres à mobylette le matin à 5 heures pour aller trier des joints et des ressorts dans une usine de composants, voilà, pour les mettre dans des petits sachets pour les envoyer dans les supermarchés. Donc voilà, ça c'était il y a 10 ans. On pourrait rappeler que la médaille de Sylvie Salver, ça remonte à 1993. On pourrait remonter encore plus loin et rappeler que Sortie d'usine de François Bon, ça remonte à 1982. Et on pourrait évidemment rappeler que certains écrivains, pratiquement tous leurs livres, c'est-à-dire une bonne dizaine, depuis très longtemps, je pense à quelqu'un comme François Salvin, ont trait, pas tous, mais presque tous, aux relations dans le monde du travail, qui peuvent aussi bien être une entreprise en grève, avec vue par par l'œil du DRH, voilà, qui se trouve pris en otage, par exemple, ce qui est donc chose qui peut se trouver d'actualité, les suicides du monde du travail, etc. Ça existe depuis très longtemps. On pourrait passer plus récemment le premier roman de Louise Desbrus, Sandre et Méthode, Anne Weber. Enfin, il y en a énormément. Et alors, évidemment, le phénomène, c'est que une année comme ça, on va se trouver braquer le projecteur sur un thème, et la rentrée littéraire va prendre la couleur de ce thème. Alors, bon. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il y a eu effectivement des rentrées sur l'autofiction, il y a eu des rentrées sur le deuil, il y a eu des rentrées sur la mort des enfants, etc. Bon, pourquoi pas. Mais je pense que on devrait essayer de se préoccuper d'autre chose, et c'est une piste que j'ai eu du mal moi-même à suivre, parce que évidemment cette injonction, ça impliquerait de lire vraiment tous les livres. C'est de savoir si ce qui compte. Alors évidemment, on va essayer d'avoir une approche qui soit un peu moins thématique. Ce qui compte dans le livre n'est pas forcément le sujet, entre guillemets, si tant est qu'on puisse considérer qu'un livre a un sujet et pas plusieurs ou pas de sujet du tout. Mais essayer de voir un peu sur les tendances structurantes de l'évolution du roman, telle que peut les analyser, par exemple, l'histoire littéraire ou la critique universitaire, et voir un peu si ça se retrouve concrètement dans la rentrée littéraire. Alors, on pourra en repérer plus une ou deux, et je crois que ce qui est le plus important, c'est le côté particulièrement boulimique du roman et sa capacité à absorber tous les autres genres et tous les domaines. De deux façons. Alors, la première, c'est le rapport entre l'imaginaire et documentaire, si on peut dire. Donc ça, il est clair que c'est déjà fait, si on peut dire. L'autofiction a été déjà largement couronnée dans les prix. Je pense que l'un des exemples les plus marquants, et qui a peut-être été très polémique, c'était Dans ces bras-là de Camille Laurence, par exemple, qui a eu le prix Fémina. L'intégration du document et du réel au roman, qui était le domaine de la fiction, a été plusieurs fois salué par les prix. Je pense à Jean Hatzfeld, par exemple. Je pense à Ingrid Cavan de Jean-Jacques Schul, qui a eu le Goncourt. Et alors, de façon très polémique, l'an dernier, Yannick Enel avec Yann Karski, où là on était lui-même avait essayé de avait écrit pas essayé il avait écrit un livre hybride entre documentaire, témoignage, et avec une petite part fictionnelle se glissant dans les interstices d'un récit gagé sur le réel, comme le dit souvent Philippe Forest. Voilà, alors donc ça, cette tendance, on la trouve. Ce qu'on ne trouve pas encore, et on le trouve très peu, c'est la tendance du roman contemporain à intégrer des types d'écriture qui peuvent venir de la poésie, par exemple. C'est pas nouveau. Ceux qui ont pu regarder des rééditions récentes, il leur aura pas échappé, par exemple, qu'on peut trouver maintenant dans les éditions par le biais de Laure Limongi les livres d'Hélène Bessette, par exemple. Et Hélène Bessette avait dans un d'une part, qui était quelqu'un qui a eu à un moment, s'est retrouvé dans les sélections de prix, et qui a, en particulier du prix CAS, qui existait, qui a eu une éclipse et qui s'est reconstitué récemment, pour la tour, si ma mémoire est bonne. Et donc, elle s'était fixée pour objectif d'avoir une sorte de donner au roman les mêmes objectifs que la poésie. Et disons, les mêmes objectifs de rupture, d'ailleurs, que la poésie. Et elle a d'ailleurs mis ça en pratique dans des textes extrêmement intéressants. Et on peut retrouver ça dans beaucoup de livres, justement, qui... Alors je vais citer un exemple qui a eu un certain succès parce que c'était le texte qui a été le support d'un spectacle cet été. C'est un mage en été d'Olivier Cadio. Mais on peut retrouver aussi, par exemple, Alain Farah, Matamore numéro 29, d'un auteur qui a une expérience d'écriture poétique et qui met au service de la fiction à la fois autofiction personnelle et invention romanesque totale, un certain type d'écriture par fragment, par verset, par qu'on peut retrouver dans la poésie. Alors ça, est-ce qu'on trouve ça dans la rentrée littéraire? Oui, on le trouve. Donc il y a plusieurs livres qui pourraient on pourrait chercher. On le trouve un peu. On le trouve beaucoup moins dans les sélections de prix. Je ne sais pas si on va retrouver ça dans les prix qui seront attribués en fin d'année, mais c'est peut-être quand même, il y a quand même des éléments qui montrent que un regard se renouvelle d'abord du côté des éditeurs, et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Certains éditeurs ne se contentent pas d'engranger les dividendes des best-sellers, mais réinvestissent dans des auteurs qui représentent pour eux une prise de risque malgré tout. Et puis on voit aussi que les jury classique regarde beaucoup ce qui se fait, les noms qui sont sortis dans les listes de prix des prix, on va dire, alternatifs ou challenger des années précédentes. On retrouve dans plusieurs prix, par exemple, des gens. Alors il y a quatre lauréats du prix du Livre Inter qui se trouvent en compétition pour les prix traditionnels. Il y a Patrick Lapeyre, il y a Mathias Sénard, il y a Volodine, il y a Jean-Baptiste Aran, je crois. Donc il y en a quatre. Et on retrouve des lauréats du Vepler, ou en tout cas une lauréate qui est là, du Vepler, qui se retrouve dans des sélections, des prix, on va dire du quatuor, du grand chelem, de la littérature. Alors la rentrée littéraire, évidemment, donc c'est... Il faut essayer de la lire, j'irai avec ses propres yeux. On voit bien comment le champ se balise entre les grands prix, les prix contestataires ou challenger ou petits ou alternatifs. Hein, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et aussi, malgré tout, voir que les injonctions qui sont faites aux prix sont faites aussi aux journaux, puisqu'il est impossible maintenant de ne pas faire de sélection de prix à la rentrée. Alors c'est quelque chose qui peut être assez plaisant quand on se prend pour Dieu à la fin du mois d'août, et puis après il faut assumer ses propres choix jusqu'à la fin de la saison. Mais je pense que c'est ça aussi, faire une rentrée littéraire, et après tout c'est aussi un jeu. Voilà ce que je voulais dire.
Merci.
Voilà.
J'invite Eva Bétan, Marie-Rose Garnieri et Marie-Catherine Vacher à nous rejoindre.
Voilà, et je change
pour
de table.
Participer à cette table ronde sur les fruits de l'automne. Merci Sylvie Ducas. Je vous invite à rester avec nous pour participer également à cette seconde partie de soirée. Et je laisse la parole à Alain Nicolas.